Et il y a un débat consacré le soir, un débat consacré à la décroissance, et un débat contradictoire entre un pour et un contre, parce que c'est un concept qui est discuté, y compris au sein du mouvement altermondialiste. Donc voilà pour les deux jours à venir. Et enfin, il y a la ferme ouverte de la Confédération Paysanne vendredi, et samedi, on revient à la Manu pour toujours le salon des associations, et un débat auquel on tient relativement beaucoup, qui est sur les forums sociaux pour quoi faire. Il y aura des témoignages de gens de Nantes qui sont allés dans les différents forums sociaux, mondiaux, européens, locaux, et on essaiera de se poser la question du forum social de Londres. Il y aura quelqu'un qui contribue au comité d'organisation du FSE de Londres, qui a lieu du 14 au 17 octobre, et on cherche un mode d'organisation pour les gens de Nantes qui souhaiteraient se rendre au forum social européen. Donc il y a une table qui est ouverte à cet effet. On va voir ce qu'on peut faire en covoiturage, en bus et en autre chose. Et il y a une autre rencontre à Forum Social Européen, c'est la réunion des forums sociaux locaux français qui a lieu dans le Limousin, à Brassivière-en-Creuse, à 60 km de Limoges, et qui a lieu le 10 octobre. Voilà, donc pour préparer tous ces rendez-vous, il y a le débat de samedi, et il y a une le mercredi 6 octobre à 18h30 à la Manufacture des Tabacs pour les personnes intéressées à partir dans ces différents forums sociaux et en discuter. Voilà, merci.
Oui, bonsoir à tous. Merci d'être venus. Alors, ce soir, nous avons convié à un débat intitulé « Chômage, repenser l'indemnisation ». Pourquoi ce débat ? Les privatisations, les délocalisations, les licenciements se multiplient. Le démantèlement des services publics. La précarité est en train de se généraliser. Et qui dit précarité dit plusieurs passages obligés par la case chômage. Les chômeurs et les chômeuses sont de plus en plus nombreux. Les chiffres qu'on nous présente périodiquement, ça n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Tant en ce qui concerne le nombre des chômeurs que les offres d'emploi qui seraient non pourvues. On peut estimer que le nombre de chômeurs en France, il est au moins 4 000. Ces chômeurs et ces chômeuses sont pour le plus souvent non indemnisés. Quand ils ou elles sont indemnisés, mais elles le sont peu longtemps et souvent très mal. Ça n'a pas toujours été le cas. L'assurance chômage, on va revenir un petit peu, on l'a vu le jour en 58. On peut dire que de 58 à 79, l'indemnisation des chômeurs, elle s'est améliorée. On peut souligner que parallèlement, pendant cette période, le sort des salariés s'est aussi amélioré. Puis en 1982, c'est là qu'on a pris un virage qu'on pourrait dire libéral. On a reconsidéré la façon d'analyser les choses, tant en ce qui concerne les causes du chômage que le traitement à y apporter. Et bien depuis 82, ça se dégrade. 82, c'est l'apparition des filières d'indemnisation. Ça veut dire que les gens seront désormais indemnisés en fonction du temps où ils seront cotisés. Ça veut dire que les gens les plus fragiles sont indemnisés que ceux qui sont plus stables dans l'emploi. En 92, c'est la dégressivité. En 2000, alors là, on passe à une vitesse supérieure avec la refondation sociale du MEDEF. Le premier chantier, ça devrait être le sort des chômeurs. Ça a débouché sur la version 1 du PAR avec l'acteur du 19 octobre 2000, qui était prévu pour 3 ans, une convention qui était prévue pour 3 ans. En fait, les gens qui s'étaient autoproclamés compétents se sont rendus compte que ça ne marchait pas très bien. Ils ont encore revu les droits des chômeurs à la baisse et là, on tombe sur l'accord du 23 décembre 2002. Le PAR, la deuxième version du PAR qui est actuellement en vigueur, un système de harcèlement institutionnalisé. Le 26 juin 2003, ça a été le tour des annexes 8 et 10. On a réglé qui sont censés régler le sort des intermittents. Le chômage, c'est souvent synonyme de misère. Il est donc urgent de repenser l'indemnisation du chômage. Du fric, il y en a. Il en passe beaucoup, notamment chez les sous-traitants du PAR. Ce fait qu'il pourrait être beaucoup lié. Alors il y a des gens qui se sont mis à la tâche et qui ont cherché des solutions. Alors c'est le cas de la Fondation Copernic qui fait des propositions pour refonder la ligne de chômage. C'est le cas de la coordination des intermittents et des précaires d'Île-de-France. Les syndicats aussi donc ont leur point de vue sur la question. Donc, alors tout à l'heure, Claire Villiers vous fera les travaux qui ont été faits par la Fondation Copernic. Laurent Guillotot, le modèle proposé par la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France. Et Michel Beneteau nous donnera le point de vue de la CGT sur la question de l'indemnisation du chômage. Bon, je laisse la parole. On va essayer de faire assez court, de façon à ce que dans la salle, tout le monde puisse un peu s'exprimer. Et puis, bon, moi, je demanderai aux gens de faire des interventions pas trop longues, quoi, pour qu'on puisse donner la parole à la salle. Alors, je passe tout de suite la parole à Claire Olivier.
Merci. Bon, alors, il m'a répété trois fois que c'était très court, donc je vais faire un effort. Alors, je vais commencer par une page de pub, parce que comme il faut être court, on ne peut pas tout dire. Donc, tout ce que vous ne saurez pas, ça se trouve dans ce petit bouquin, qui s'appelle « Pour un Grenelle de l'Unédic ». Et donc, on a un certain nombre d'exemplaires en vente ici pour une somme assez modique, même pour les rémunistes. Bon, voilà. Pour faire court, moi je veux juste dire que la Fondation Copernic, c'est donc une association qui réunit des syndicalistes, des associatifs, des chercheurs, des membres d'organisations politiques aussi, tous plutôt anti-libéraux, anti-capitalistes, enfin bon, à peu près le profil de ce forum social. Cette note pour un Grenelle de l'Unédic a été écrite sur une proposition des organisations de chômeurs, AC, APS, MNCP, avec également la collaboration de la CGT chômeurs, avec également la participation de la Confédération CGT, qui a apporté aussi sa réflexion, la participation du groupe des 10 solidaires. Mais l'essentiel des propositions que je vais vous présenter là avait été construite avant le mouvement des chômeurs de 97, elles avaient été construites pour la renégociation Unédic de 96. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien parce que le fait que ce soit dans le mouvement des chômeurs que cette section ait été faite est à mon avis très important, parce que ça montre que c'est bien dans des cadres où à la fois on s'organise, on mène des luttes, qu'en même temps on arrive à construire des contre-propositions. Et bon, ça peut prêter à débat, mais je trouve que c'est important de se rappeler ça, que c'est pas sorti de la tête de trois chercheurs, mais que c'est bien parce qu'on est confronté à des problèmes concrets. Et qu'on a envie d'alimenter la mobilisation avec des propositions, qu'on a contribué à écrire ça. Et c'est vrai que c'est intéressant, le panel de gens qui ont participé à l'action. Bon, il y a des choses que je vais dire évidemment, on a des débats, par exemple, avec Laurent sur un certain nombre de choses, mais on avait ensemble construit cette première élaboration, donc il y a évidemment plein de choses qui se recoupent, et avec les camarades de la CGT aussi. Donc ça montre qu'il y a la possibilité, sur cette questionnisation du chômage, d'avoir un front vraiment large. La preuve, c'est qu'on a réussi à construire un peu cette proposition. Alors, juste, moi je ne vais pas revenir sur l'histoire de l'indemnisation du chômage, Pierre vient de dire quelques éléments essentiels. Je vais juste redire deux ou trois choses. La première, c'est qu'il faut toujours se souvenir que l'indemnisation du chômage pour l'État en général, mais particulièrement pour le patronat, c'est toujours le terrain d'expérimentation des régressions sociales. Je donne juste des têtes de chapitre pour être rapide, mais ça veut dire que ce qui se passe, la manière dont on traite les chômeurs et les précaires, est toujours à l'avant-garde de la manière dont on va traiter les salariés après. Ce que je veux dire en disant ça, c'est que ceux qui penseraient que finalement c'est pas tellement grave l'affaire des recalculés, c'est pas tellement grave les filières, c'est pas tellement grave le contrat, etc., parce que c'est que pour les chômeurs, et bien qu'ils se trompent, parce qu'on a pu le vérifier dans l'histoire, ce qui se passe sur les chômeurs, on le retrouve toujours sur la totalité des salariés après. Et si on reprenait en détail l'évolution du système de l'UNEDIC, au niveau de comment c'est pas démocratique, comment les droits ont régressé de plus en plus, etc., etc., et bien c'est vraiment une preuve absolue. Alors, on a du mal, je vais toujours mélanger les propositions et la mobilisation, parce que je vois pas comment on peut faire autrement. On sait que c'est très difficile d'organiser des mobilisations convergentes entre des chômeurs, des précaires, des salariés. Et pourtant, je crois que vraiment il faut qu'on retravaille cette question parce que toutes les défaites qu'on a depuis des années montrent qu'il faudrait aller dans ce sens. Alors, deuxième chose que je voulais dire juste en petite introduction, c'est que effectivement, l'expérimentation, l'UNEDIC est bien l'endroit où le patronat expérimente, par exemple, son affaire de constitution sociale. Hein. Et tout ce qu'on a vu là sur les modifications du code du travail, ce qu'on voit aujourd'hui dans la gestion de la main-d'œuvre dans les entreprises, c'est-à-dire de plus en plus de contrats par objectif, de contractualisation, de autonomisation, responsabilisation, enfin j'en passe, c'est les meilleurs, vous pourriez le décrire aussi bien ou mieux que moi, de mise en concurrence hein, des salariés les uns avec les autres, tout ça, on l'a connu, on le connaît dans le régime d'indemnisation du chômage. Vraiment, je m'arrête là, mais on pourrait le décrire. Bon. Alors, l'indemnisation aujourd'hui, pour le patronat, est assez indemniser le moins possible, le moins de gens possible, contrôler le plus possible pour contraindre le plus possible. Contraindre à quoi ? Bien contraindre tout simplement à accepter une norme d'emploi dégradée. Une norme d'emploi dégradée, ça veut dire contraindre à accepter la précarité, des salaires moins importants, le temps partiel imposé, les conditions de travail dégradées, etc., etc. Et donc, évidemment, l'affaire est assez simple. Hein. Si on ne paye pas les gens beaucoup quand ils sont au chômage, si on leur interdit de démissionner, puis quand ils démissionnent, ils n'ont pas d'indemnisation, eh bien, évidemment, c'est une liberté qui est quand même assez relative et ça oblige à reprendre n'importe quoi. Et on le voit bien avec la manière dont on est capable d'imposer à peu près n'importe quoi comme quoi. Donc, je m'arrête sur les constats. Hein, c'est juste pour redonner un petit cadre un peu général et vraiment à la SERP. Et donc, pour dire un peu comment on... Ce qui me semble qu'il faudrait revendiquer, je vais vous dire ça en 8 points. Alors, la première chose, c'est évidemment une mesure de stricte justice. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est les moyens de vivre pour tout le monde. Ça, c'est pas comme ça sorti du chapeau comme ça, c'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est dans la Constitution. Alors, bon, je ne suis pas une fanatique de la Constitution, c'est Laurent qui m'a convaincu au fur et à mesure qu'il fallait absolument s'appuyer là-dessus, c'était plutôt un bon truc. Mais dans la Constitution, il y a écrit que chacun, enfin tout le monde a le devoir de travailler, ça on peut débattre de cette affaire, mais chacun a le droit d'avoir un emploi, et s'il n'a pas d'emploi, il a le droit à des moyens convenables d'existence. Est-ce qu'aujourd'hui, le niveau du RMI, le niveau des minima sociaux, le fait que plein de gens, parce que ce n'est pas des droits individuels, n'ont rien comme indemnisation, tout ça, ce sont des fautes contre la Constitution. Et je veux dire, le droit à l'indemnisation est un vrai droit politique, puisque c'est un droit qui est inscrit dans la Constitution. Donc on veut les moyens de vivre pour tout le monde. À quel niveau ? Dans la proposition qu'on a faite, on a mis le SMIC comme référence. Parce qu'il y a un débat. Une partie des organisations de chômeurs, AC par exemple, l'APES aussi, pense que le SMIC doit être le minimum. C'est-à-dire que si le SMIC est un salaire, c'est-à-dire qu'on dit, il ne faut pas partir de ce qui est possible, il faut partir de ce dont on a besoin. Si on pense que le SMIC, c'est nécessaire, c'est le minimum pour vivre quand on a un boulot, c'est évidemment le minimum pour vivre quand on est un précaire ou qu'on n'en est pas du tout. Donc le SMIC. En même temps, on sait très bien que ça fait débat dans les salariés et que, même pas seulement chez les salariés, je pense que chez une partie des chômeurs aussi, mais ça peut partir peut-être du débat dans cette... Un certain nombre de gens disent, enfin, c'est quand même pas normal, oui. Moi, je bosse, lui, pas, et moi, j'ai que le SMIC, et pourquoi, lui, il aurait autant ? Et là, je crois qu'il y a une vraie discussion à reprendre sur, justement, cette question, c'est-à-dire, est-ce qu'on revendique quelque chose par rapport à, on bosse, donc on a plus, ou est-ce qu'on revendique par rapport à ce dont on a besoin ? Il nous semble qu'il faut se baser sur ce dont on a besoin pour vivre, et donc c'est le SMIC minimum. Deuxième point. On a besoin de sécurité. Alors là, je pense que le camarade de la CGT reprendra parce que je crois que c'est vraiment un truc qui court. Bon, donc je vais être assez brève là-dessus parce que je crois qu'on est très très convergents. De la sécurité. Et donc nous, on a appelé ça une nouvelle sécurité économique et sociale. Évidemment, ça fait clin d'œil avec la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement la même chose. Quand il y a eu la mise en place de la sécurité sociale en 1945, ce que disait le programme du Conseil national de la résistance, dont on a fêté cette année le 60e anniversaire, etc., c'est qu'il fallait mettre en place un plan complet de sécurité sociale. Et le plan complet de sécurité sociale, il aurait dû intégrer l'indemnisation du chômage. Il ne l'a pas intégré pour plusieurs raisons, mais probablement parce que justement, il était clair pour tout le monde que mettre une indemnisation du chômage de haut niveau, contrôlée par les salariés, puisque c'était ça quand même le plan de sécurité sociale de 45, était évidemment un rapport de force très important par rapport à la manière dont le patronat gérait la main-d'œuvre. La question du contrôle des embauches, du contrôle du placement, a toujours été un enjeu pour le mouvement ouvrier. D'ailleurs, on n'a pas le temps là, c'est ce que je donne des têtes de chapitre, mais on n'a pas. Enfin, aujourd'hui, c'est le service public, mais il y a eu d'autres époques où les syndicats ont revendiqué ce contrôle du placement, par exemple. Parce que contrôler le placement, c'est contrôler les comptes de placement. Donc cette question, on mériterait, à mon avis, d'être revisitée. Donc on veut de la sécurité et on veut des droits qui sont des droits en continu. C'est-à-dire pas comme aujourd'hui, des droits qui sont hachés avec on n'a plus de boulot, on a éventuellement droit à la CEDIC, encore pas tous, puisque j'ai à peu près entre 40 et 45% qui ont droit à la CEDIC. Si, quand on n'a plus la CEDIC, ou si on n'y a pas droit, on peut éventuellement avoir droit aux minima sociaux comme l'allocation spécifique de solidarité, mais pour ça, il ne faut pas avoir un conjoint qui gagne plus de, alors je parle encore en francs, donc c'est pas bien, enfin plus de 8000 balles par mois, il faut avoir travaillé 5 ans dans les 10 ans, pour le RMI, il faut avoir plus de 25 ans, il faut avoir, bon, etc., etc. Donc, ce n'est pas des droits qui sont des droits individuels, ce n'est pas du continuum de droits. Donc, on veut de la sécurité, une nouvelle sécurité économique et sociale, et donc construire un système qui fasse que, avec des droits qui soient des droits à la fois individuels mais dans un cadre collectif, qui fasse que, eh bien, quand il y a de la mobilité, qu'elle soit choisie ou pas, mais je vais y revenir, on est en tout cas une garantie. Alors le troisième point, c'est justement ça sur quoi je voulais insister, c'est donc une garantie de revenus avec ou sans emploi et qui soit réellement un droit. C'est-à-dire pas quelque chose qu'on est obligé d'aller quémander, comme un certain nombre de fois quand on va quémander les aides sociales dans les centres au CCAS ou des choses comme ça. Et donc bien une garantie contre la misère, parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de gens qui ont effectivement sont dans des situations totalement catastrophiques. Une garantie, en entrée, mais contre la dégradation des normes d'emploi. C'est-à-dire une garantie qui fasse qu'on peut refuser des boulots qui ne sont pas rémunérés comme on le souhaiterait, qu'on peut refuser un travail précaire, qu'on peut refuser de se déplacer de je ne sais combien de kilomètres, qu'on peut refuser si le contenu du travail, si son utilité sociale ne nous convient pas. Donc une garantie qui donne la capacité de résister à la dégradation des normes d'emploi, mais aussi à la volonté du patronat. Et une garantie qui permet aussi de venir sur, je parlais d'utilité sociale, mais le boulot, c'est pas seulement gagner sa vie, c'est aussi à quoi ça sert ce que je vais faire. Je veux bien travailler dans telle boîte, mais je veux pas travailler dans telle autre. Donc, un vrai droit qui redonne de la capacité de choisir où on veut travailler ou pas, on a envie de travailler, évidemment. Donc, ça, c'était mon troisième point, une garantie de nouveau avec ou sans emploi, et qui soit un vrai droit, et évidemment un droit individuel. Et ça, c'est extrêmement important, parce que, et on voit que c'est, de façon générale, c'est plus les femmes d'ailleurs qui sont pénalisées par cela. Les minima sociaux, en particulier l'ASS et le RMI, ne sont pas des droits individuels, je le disais. Et donc, il y a plein de gens aujourd'hui qui n'ont pas droit, c'est-à-dire que, par exemple, vous êtes en fin d'indemnisation à CEDIC, la CEDIC est un droit individuel, mais qui se retrouvent avec rien. Par exemple, dans les juillet, si on n'avait pas remporté cette victoire quand même assez fantastique, mais parce qu'il y a eu beaucoup de batailles et qu'un certain nombre de gens totalement fous ont dit ben, pourquoi on ne gagnerait pas, hein, parce que les premiers procès, les premiers dossiers, ça pouvait paraître totalement incroyable. Moi, je n'aurais pas parié un centime sur la victoire de cette bataille, mais bon, je pense que c'est vraiment, vu la presse, on a eu bien raison de la mener et de la mener comme cela. Dans cette affaire des recalculés, quand le gouvernement nous disait mais il n'y a pas de problème parce qu'à la fin de la CEDIC, eh bien les gens ont toujours droit à quelque chose, ou l'ASS ou le RMI, mais c'était complètement faux, puisque justement ce ne sont pas des droits individuels et qu'on prenait en compte les ressources du foyer. Et que pour une société qui prétend que chacun doit pouvoir autonome mener sa vie et donc que chacun est compte pour un individu, eh bien complètement rétrograde que des droits ne soient pas individuels. Alors, mon quatrième point, c'est la question de la mobilité et de la discontinuité. Alors, j'insiste un petit peu là-dessus parce que je crois que là, il y a un petit débat. Enfin bon, je crois, en tout cas, puisqu'on a déjà discuté pas mal avec des choses que racontaient les camarades intermittents, j'insiste 2 minutes là-dessus. Pourquoi ? Je crois qu'effectivement, on est dans un système aujourd'hui d'organisation de l'emploi qui est avec beaucoup de précarité, beaucoup de discontinuité. Moi, je crois qu'il faut qu'on fasse la différence entre une mobilité choisie, pense que quiconque devrait avoir le droit de quitter son entreprise ou son administration ou son service et pouvoir aller travailler ailleurs s'il en a besoin, ça, ça suppose, et c'est dans les propositions qu'on a fait à Copernic, que l'indemnisation du chômage soit versée, y compris en cas de démission. C'est-à-dire que l'on décide qu'on va ailleurs, on a droit à l'indemnisation du chômage. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand vous démissionnez, pendant 4 mois, vous êtes puni. C'est-à-dire qu'on vous dit, en fait, vous n'aviez pas le droit. Hein. Il faut être involontairement privé d'emploi pour pouvoir avoir droit aux ACDI. Et au bout de 4 mois, on va revoir votre dossier. Et si vous avez vraiment fait la preuve que vous avez cherché beaucoup, beaucoup du travail avec beaucoup, beaucoup d'énergie, peut-être on va vous redonner vos droits. Mais on ne vous les redonne pas toujours. Donc, cette question de l'indemnisation du chômage, y compris en cas de démission, c'est très important. Parce que ça, c'est redonner du rapport de force et de la capacité à choisir son itinéraire professionnel, donc à choisir ce qu'on veut faire, etc. Quand deuxième objet de débat très important dans les entreprises avec les salariés, avec les chômeurs moins, mais avec les salariés en tout cas, parce que vous avez déjà essayé d'entrer dans ce débat en disant c'est normal que l'indemnisation du chômage soit versée, y compris en cas de démission, eh bien moi je pense qu'il faut le faire, parce que c'est la manière de dire on a le droit de choisir. On a le patron a le droit de nous virer. Pourquoi nous, on n'a pas le droit de partir dans les mêmes conditions? C'est quand même, je veux dire, bon. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît totalement hors de propos, utopiste, etc. Moi, je pense quand même que c'est extrêmement important de remener ce débat. Donc ça, c'est la question de la mobilité choisie et il faut le droit à l'indemnisation en cas de démission. Et puis, il y a la question de la discontinuité qui nous est imposée. Et moi, je pense, en tout cas, c'est comme ça qu'on a construit les propositions de la Fondation Copernic, que la manière de choisir l'indemnisation du chômage doit agir, non seulement pour donner des droits à chacun, ça je l'ai dit beaucoup, mais également d'être construite de manière pour dissuader du recours à la précarité, dissuader les entreprises du recours à la précarité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble que quand elle n'est pas choisie, la discontinuité est terriblement destructrice. Alors, elle est destructrice pour les individus, c'est-à-dire que quand on subit la précarité, on n'a pas la capacité de... Je veux dire, on voit bien comment ça se passe dans une entreprise, avoir le temps de construire des liens avec les autres, avoir le temps de construire sa qualification, avoir le temps de trouver ses marques, y compris de pouvoir intervenir, de syndiquer, de s'organiser, d'intervenir sur les choix de l'entreprise, bon, etc., etc. Quand on est dans une situation totalement précaire, tout ça, on ne peut pas le faire. Et je crois que cette manière qu'a le patronat aujourd'hui, les entreprises, c'est planétaire, de choisir la précarité est totalement destructeur pour les individus, encore une fois, quand elle n'est pas choisie, hein, totalement destructeur pour les individus, pour les collectifs, et laisse à la direction des entreprises et aux actionnaires les mains totalement libres sur la totalité des entreprises. Ce qui ne veut pas dire que si nous sommes capables qu'il n'y ait pas de précarité, on a pour autant la capacité d'influer beaucoup sur les choix des entreprises ou des administrations. Mais si on est totalement précaire, là on ne l'a plus du tout. Et moi je pense que ça c'est une question qui est tout à fait importante. Alors qu'est-ce qu'on dit par ça? C'est que l'indemnisation, elle doit reposer sur un mélange de fonds. On a dit qu'on voulait un système unifié entre tous les systèmes d'aujourd'hui, un mélange de fonds où les entreprises continue de payer, c'est-à-dire qu'on n'est pas pour exclusivement l'impôt. Alors, il y a d'autres pays où c'est que l'impôt, hein, les pays, par exemple, scandinaves, c'est que l'impôt qui paye l'indemnisation du chômage, la protection sociale, etc. C'est une question, je dirais, d'histoire. Bon, moi, aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas lâcher la peau de l'ours avant d'en avoir trouvé un autre, parce que ce n'est pas ça la bonne situation. En tout cas, il ne faut pas lâcher ce qu'on a avant d'avoir autre chose. Et comme je ne vois absolument pas la capacité d'imposer une réforme fiscale d'une ampleur, parce que quand même, le budget de la protection sociale, c'est plus important que l'État, hein. Donc, le système aujourd'hui, tel qu'on connaît, du salaire en deux parties, c'est-à-dire le salaire qu'on touche, et puis la partie, parce que en fait, ça nous appartient, c'est la partie de la richesse produite qui est socialisée. Et donc, c'est, à mon avis, une partie plus importante de cette richesse socialisée qui doit être mise sur l'indemnisation du chômage. Et il faut que les entreprises qui ont recours à une précarité extrêmement importante, qui ont recours à des licenciements à répétition, soient pénalisées. C'est-à-dire que leur cotisation, enfin leur part sur l'indemnisation du chômage soit tout temps. Alors là-dessus, on peut avoir un débat, mais moi je pense qu'il faut trouver des moyens de dissuader du recours à la précarité. Bon, tout ça, évidemment, sans rapport de force, ça n'a aucun sens, mais ça, c'était un peu ce que je disais au début. Donc ça, c'était... Bon, alors, le point suivant sur lequel je voulais dire, c'est que donc l'architecture d'un système, un système unifié, c'est-à-dire qu'on remettrait dans le même pot tout, hein, l'UNEDIC, les minima sociaux, donc un mélange État et indemnisation du chômage et le régime paritaire d'aujourd'hui. Et ce que nous voulons, c'est que ce soit fait dans le cadre, on a appelé ça d'une charte de service public, ce qu'il faudrait préciser. En tout cas, je ne pense pas que ce soit réellement la même chose que les maisons de l'emploi de Borloo. Il doit y avoir quelques différences, parce que les maisons d'emploi de Borloo, elles ne ressemblent pas trop à du service public quand même. Enfin, en tout cas, elles ont l'air d'avoir beaucoup de privatisation à l'intérieur. Donc, une charte de service public et qui soit très, très fortement démocratisée. Parce qu'un des grands problèmes aujourd'hui, quand même, du système d'indemnisation du chômage, c'est que quand le patronat est une ou deux organisations syndicales, je vous rappelle que dans tous nos systèmes de protection sociale paritaire aujourd'hui, et c'est comme ça depuis 58 pour l'UNEDIC, mais depuis 67 pour la Sécu, avec une petite exception en 83, mais depuis il n'y a pas eu d'élection, il n'y a jamais d'élection. C'est-à-dire que les gens qui siègent pour défendre nos intérêts, et c'est particulièrement vrai pour les chômeurs, puisque les chômeurs sont quand même assez peu syndiqués, un petit peu à la CGT, mais absolument pas ailleurs, je voudrais bien savoir, ceux qui ont signé, par exemple, au niveau de la Confédération CFDT, les dernières conventions UNEDIC, ils étaient mandatés par qui ? Et là, il y a une question démocratique de la société qui est absolument essentielle. On n'accepterait pas d'un... Alors, on accepte beaucoup de choses des politiques, hein, mais on accepte 20 fois plus des représentants syndicaux dans les institutions paritaires. Ils ne sont mandatés par personne, ils ne rendent compte à personne, ils ne sont pas soumis à une quelconque alternance lors des élections dans laquelle ils seraient dire quel est leur programme et de rendre compte de ce qu'ils ont fait. Alors, il y a quand même des sanctions. Hein, je veux dire, bon, de temps en temps, ils se mangent une gamelle. Les recalculer, c'est quand même une gamelle pour la CFDT. Mais bon, ceci dit, ça ne les fait pas forcément changer d'avis. Donc, démocratiser, c'est très important. Et notre idée, c'est que dans ce système réunifié, il devrait y avoir quatre collèges. Hein, c'est-à-dire qu'on pense qu'il faut que l'État y soit. Parce que, bon, l'État, bien qu'il soit, c'est quand même le garant d'intérêt général, normalement en tout cas. Le patronat, on a pensé à l'époque, et tout ça, elle peut être discutée, qu'il valait mieux l'avoir dedans que dehors, et donc il valait mieux qu'il soit dedans. On pense qu'il faut que les organisations syndicales, mais toutes les organisations syndicales, pas seulement les cinq confédérations réputées représentatives, hein, parce que je veux dire, tout ça, aujourd'hui, le syndicalisme a quand même beaucoup évolué, et on l'a vu encore une fois avec les recalculés, et des organisations, par exemple, comme la FSU, qui avaient plein de gens qui venaient de l'éducation nationale, qui avaient droit à l'allocation pour perte d'emploi, qui avaient les mêmes problèmes que ceux qui venaient du privé, et qui pourtant sont représentés nulle part, bon, sans compter évidemment les camarades du groupe des 10 qui sont précaires partout. Donc toutes les organisations syndicales et les organisations de chômeurs, parce qu'on pense qu'on n'est jamais si bien servi par soi-même, et que les organisations de chômeurs, ça peut être associatives ou syndicales. C'est pas du tout dérangeant qu'il y ait qu'une même confédération syndicale soit à la fois dans le collège des confédérations, parce qu'elle représente là les salariés, et dans le collège des organisations de chômeurs, parce que là, elles représentent les intérêts des chômeurs. En tout cas, c'est une proposition que je vous donne à débattre. Pour conclure tout ça, ce que je voudrais dire, c'est que, évidemment, il faudrait financer. Hein, parce que si on veut que tout le monde ait des droits, bon, je ne vous ai pas donné les propositions dans le détail, hein, vous regarderez dans le bouquin, donc pour revenir dans le débat, mais si on veut qu'il y ait le SMIC minimum pour tout le monde et qu'il y ait une indemnisation avec des droits, ça veut dire des droits jusqu'à ce qu'on ait retrouvé un boulot. Hein, ça veut dire qu'on met en l'air les filières, les durées, bon, etc., plus les démissions, ça veut dire évidemment qu'il faut financer ça. Donc j'ai dit un petit peu comment on avait envie de le financer. Mais pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que dans ce pays, il y a un espace, pas seulement partout, il y a un espèce de tabou, c'est comme si la répartition de la richesse était devenue intangible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un peu moins de 60%, je crois qu'on est à 57 ou 58% de la richesse produite qui est en salaire et salaire socialisé, et tout le reste va un tout petit peu en investissement et beaucoup en spéculation. Il y a 15 ans, il y avait 10 points de plus qui étaient dans la richesse distribuée appartenant à l'ensemble des salariés, enfin, au sens large, la population. Et donc, on a perdu 10 points. Ces 10 points, il faut les récupérer. Parce que, et quand je dis que c'est intangible, c'est que le gouvernement de Lionel Jospin, par exemple, avait sorti un rapport sur le plein emploi où il posait ça comme un postulat. La répartition de la richesse, c'est comme ça, c'est 60-40. Tant qu'on fasse, on n'a aucune possibilité ni de régler la question des retraites, ni de régler la question de la sécu, ni de régler la question de la formation professionnelle de manière satisfaisante, ni de régler l'indemnisation du chômage. Donc il y a une vraie bataille sur la réappropriation de ce qui est notre bien collectif. Évidemment, tout ça absolument contradictoire avec la GCS et la constitution qu'on nous promet, parce que, évidemment, ça veut dire socialiser la richesse produite, et donc ne pas être dans les règles du marché qui régleraient tout, parce que là, on ne peut rien faire de ce type.
pas si c'est le fan de la Constitution qui va parler, puisqu'il en a été question, mais c'est vrai qu'on est donc Laurent de la coordination des intermittents et prêtres d'Île-de-France. On a quand même ce petit avantage qu'il y a parfois dans les textes officiels qui sont supposés régir l'organisation de cette société, quelques traces d'un certain égalitarisme, voire d'une certaine ambiance révolutionnaire. Et on pense de la Constitution de 93 dans cette phrase qui fixe des devoirs à la société vis-à-vis de chacun de ses ressortissants en déclarant que la société doit être des moyens d'existence à tous. Effectivement, c'est parfois en prenant au pied de la lettre des déclarations, aucune ou fort peu de traductions concrètes, qu'on arrive aussi un peu à porter ces contradictions, parce que ça dénaturalise un tout petit peu la question qui est devenue quand même très, très naturelle maintenant. On vit dans une société où on dit en gros qui ne travaille pas ne mange pas. C'est un peu comme ça que Jospin avait claqué la porte au mouvement des chômeurs. Lorsqu'en 98, il avait expliqué qu'il fallait vivre dans une société fondée sur le travail et pas sur l'assistance, on voit que cette idéologie du travail, elle a quand même fait des progrès absolument gigantesques dans notre société, non seulement dans les têtes, mais dans les dispositifs concrets. Alors, pour en venir à cette histoire de lutte des intermittents, bon, je reviens pas sur un certain nombre d'épisodes, mais en gros, cette lutte a démarré jusqu'à fournir des contre-propositions sur cette question de l'assurance chômage, non pas tellement à partir d'une logique d'ensemble, etc., mais à partir d'un événement particulier qui était donc l'adoption du prototype de juin 2003, qui venait comme ça parachever effectivement la refondation sociale lancée en 99 sur son terrain le plus décisif. Du moins, c'était l'avis de Kessler, le numéro 2 du MEDEF, lorsqu'il avait déclaré qu'en réussite part, ils avaient réussi la refondation sociale, parce qu'effectivement, commencer à régler le sort des chômeurs, des travailleurs pauvres et des salariés précaires, c'était réussir la refondation sociale. Donc là, en gros, c'est le dernier morceau un peu mutualisateur, un peu qui offre un peu de garantie, etc., dans le régime de l'UNEDIC qui tombe avec les annexes dites annexes du spectacle, les annexes 8 et 10. Et en plus, ces annexes-là, elles ont une particularité quand même qui a beaucoup d'importance politique dans un contexte de précarisation générale de l'emploi de longue durée, hein, depuis 25 ans. C'est que c'est les seules annexes qui permettent de garantir un revenu à des travailleurs à l'emploi discontinu. On n'est pas du tout dans le cas d'autres annexes du type l'annexe 4 des intérimaires qui comporte des délais de carence très très longs où on ne touche pas d'allocation chômage et une espèce d'obligation d'enchaîner les missions sans beaucoup de garanties. On n'est pas dans le cas de l'annexe 6 de l'UNEDIC. Dans l'UNEDIC, il y a 13 annexes, on parle de réunifier le système, mais il faut déjà voir à quel point il est monté, etc. On n'est pas non plus dans le statut des saisonniers qui garantit que très très peu de droits, mais dans un régime qui permet de toucher de l'argent les jours non employés pour beaucoup de gens à partir du moment où ils ont fait un certain nombre d'heures, effectué un certain nombre d'heures employées dans l'année. Il se trouve que ce protocole UNEDIC du 23 juin casse ces mécanismes, casse tout un tas de points de repère qui permettaient justement de faire des projets professionnels, etc., de développer sa pratique professionnelle, intégrant la discontinuité comme une donnée de base avec laquelle on a à jongler, mais avec un minimum d'assurance derrière. Et le nouveau protocole introduit énormément d'aléas nouveaux. Il y a un mécanisme qui change fondamentalement, c'est qu'avant, on obtenait une année d'allocation en entrant dans le régime. Donc, lorsqu'on travaille durant l'année, soit on est employé, soit on obtient l'allocation. Alors que dans le nouveau modèle, c'est plus une durée de droit qu'on obtient, mais un capital de droit à vie de 243 jours, et qui s'avère être un capital qui pourra durer très longtemps, avec la règle qui s'appelle celle du décalage. À chaque fois qu'on va travailler à nouveau, on aura un certain nombre de jours non indemnisés, ce capital de jours indemnisés restera intact, ou diminuera peu, et on pourra mettre 5 ou 6 ans à réouvrir des droits. Si à ce moment-là, on a eu un mauvais salaire de référence et qu'on a un droit à allocation très faible, on peut rester très longtemps, en gros, dans la situation majoritaire des chômeurs, c'est-à-dire inscrit au régime sans pour autant toucher d'allocation. C'est ce qui se passe majoritairement pour les chômeurs. Alors, ça marche comme le reste, hein, comme le reste des attaques là-dessus. On diminue la durée d'affiliation, donc les conditions sont plus dures à remplir, modifie les modalités d'attribution des allocs. En gros, ce système aboutit au résultat que plein de gens sont lourdés du régime, soit on les transforme en saisonniers, justement, soit en intérimaires du point de vue administratif, soit ils vont au régime général où ils n'ont pas toujours de droits, soit ils doivent postuler au RMI sans pour autant être assurés de l'obtenir, etc. D'un côté, donc, il y a ce fait-là. Et de l'autre côté, un certain nombre de gens, parmi ceux qui travaillent le plus et la manière la plus régulière, etc., touchent des allocations plus importantes. C'est la vision qu'on pouvait faire dès juin 2003. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Les gens viennent nous voir très surpris en disant « Ah, mais je touche plus d'allocations qu'avant, etc. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, l'argument massu, comme d'habitude, pour faire cette réforme, c'était « Il y a un énorme déficit causé par le régime, et c'est donc pour épurer le déficit qu'on va réformer tout ça. On va, comme dit la CFDT dans ces cas-là, sauver le régime. » C'est l'expression qui a été employée par la CFDT depuis 1982 à chaque fois qu'ils ont pris ou participé à des décisions à l'UNEDIC. Et on va faire des économies, mais économies, on ne sait même pas si on aura, parce que pour l'instant, effectivement, on s'économise l'indemnisation des plus précaires, des intermittents, et en revanche, on indemnise davantage ceux qui travaillent le plus déclarés, etc. Bon, dans cette situation de... Donc l'idée des contre-propositions, c'était de partir à la fois de ce qui était imposé par le nouveau protocole, le protocole qui s'applique en ce moment, et ce qui pouvait découler des pratiques d'emploi dans ces milieux, à savoir, par exemple, le nouveau modèle d'indemnisation du chômage des salariés à l'emploi discontinu tel qu'il a été élaboré, il ne vise pas à tout régler, mais à partir des pratiques d'emploi donc discontinues et à rémunération variable. C'est-à-dire que dans ces annexes, on peut avoir un salaire extrêmement variable en fonction de l'emploi qu'on va occuper à tel ou tel moment. Il est très fréquent d'avoir des gens qui sont comédiens, qui à un moment donné vont faire un boulot administratif ou technique. Donc d'essayer de maintenir un peu cette... de tenir compte de cette diversité de situations, etc. Et en gros, ce modèle repropose des choses, disons, justement, qui ne sont pas... tellement de l'ordre de l'invocation de la Constitution comme opérateur, mais plutôt dans une bonne vieille tradition de lutte ouvrière, celle du salaire garanti, qui était déjà une lutte tout à fait présente dans les années 60 et qui est à peu près ce qui a donné le la à tous les mouvements de chômeurs importants depuis. C'est pas la manière dont le patron d'emploi ou pas qui doit décider de nos moyens d'existence. Bon, dans ce cadre-là, donc au lieu de partir de notions générales, en partant de cette affaire concrète, il y a un point qui est vraiment à observer, c'est que dans le statut des intermittents tel qu'il existe, en fait, il y a déjà une annualisation du temps de travail qui est tout à fait prise en compte, puisque ce qui est pris en compte, c'est qu'on ouvre des droits sur un an, sur 12 mois, avec une date anniversaire annuelle où on sait d'avance qu'à cette date-là, il faudra réexaminer les droits, etc. Par rapport à ça, il semblait ce qui est important, ce qu'on a vu dans le protocole actuel, c'est que tout repère concret était foutu en l'air par le protocole tel qu'il fonctionnait avec tous ses aléas, etc. Et donc on a cherché à des repères un peu stables qui permettent de jongler avec tout ça. Donc une des choses les plus marquantes de ce nouveau modèle, dont vous pouvez lire les détails sur le site web là, du tract que j'ai donné à la plupart d'entre vous tout à l'heure, c'est entre autres d'instaurer une indemnité journalière calculée pas du tout selon les mêmes critères et qui en gros peut pas être inférieure à une notion nouvelle qui est en gros le SMIC jour, en considérant que le SMIC jour, donc comme un tantième du SMIC mensuel en fonction du nombre de jours par mois, de 28 les mois de février courts à 31 jours, un certain nombre de mois, etc. Et donc de partir en fait de cette annualisation du temps de travail, comme c'est un peu abstrait et difficile à assumer, pour retourner à une dimension concrète de l'existence, la journée, avec en gros le principe qu'une journée non employée est une journée indemnisée. Pour quelqu'un qui fait un parcours de discontinuité de l'emploi. Parce qu'on sait très bien, dans ces boulots-là, il n'y a pas nécessairement de week-end, de jours fériés, etc. L'idée, c'était de fixer un principe général qui inclut le maximum de situations concrètes. Il y a également une chose qui est un petit peu novatrices par rapport au schéma qui ont pu être proposés par des mouvements de chômeurs ou la Fondation Copernic récemment, etc., c'est la notion de plafond de cumul. Parce qu'en fait, dans beaucoup des dispositifs alternatifs qui sont proposés, il y a bien évidemment une grosse insistance sur la nécessité de garantir un revenu mensuel, quotidien, etc. Mais il y a souvent une énorme difficulté à articuler le salaire de l'emploi et le salaire social issu du chômage, du RMI, peu importe, etc., la partie non directement liée à l'emploi. C'est ce qui fait que depuis 10 ans, on a eu, depuis la défaite des mouvements de chômeurs en 1998, toutes les mesures gouvernementales ont porté là-dessus. Ça a été la prime pour l'emploi, ça a été un certain nombre de mesures comme ça, des modifications du mécanisme appelé d'intéressement du RMI, etc. Toutes les mesures portent non seulement sur la baisse des revenus type allocation, chômage, etc., mais sur la réarticulation entre, disons, la situation d'un salarié pauvre, discontinue ou pas, ce qui dépend de ses emplois et ce qui va dépendre de la protection sociale par le biais du chômage ou du RMI. On en voit encore un exemple aujourd'hui lorsqu'on transforme l'allocation RMI plus exactement en subvention à l'employeur pour créer un RMA. Mais y compris la prime pour l'emploi fonctionnait comme ça, instaurée par Jospin. Au lieu de donner une prime de fin d'année aux chômeurs qui la réclamaient, ils ont décidé, donc, puisque seul le travail vaut droit, l'emploi vaut droit, etc., de créer une prime pour l'emploi pour laquelle il faut avoir travaillé l'équivalent de 0,4 SMIC par mois sur l'année, etc. Donc si on a bossé moins d'un tiers de temps au SMIC sur l'année, en gros, on ne touche pas cette prime pour l'emploi parce qu'on est un chômeur un petit peu responsable de son sort au lieu de s'être correctement activé. Bon, on reviendra peut-être dans la discussion sur le nouveau modèle. Actuellement, ce qu'on est en train d'essayer de faire, justement, c'est de casser un peu cette boîte noire de l'UNEDIC, puisqu'on a réclamé au gouvernement une expertise contradictoire et indépendante des données et du fonds de l'UNEDIC, parce qu'en gros, la conclusion à laquelle on arrive, et qui diffère peut-être de ce qui se dit dans beaucoup de réunions, disons, de gauche, c'est pas tant que l'UNEDIC finance les patrons, que c'est un système d'aide aux patrons, etc., chose qui est assez évidente à dire et à voir, c'est qu'au-delà de ça, cette institution, comme d'autres, a pour rôle de financer la production flexible, de fait, et pas seulement les salariés. On voit bien, malgré tout, qu'il y a quelques milliards d'euros destinés aux allocataires, et que là-dessus, c'est pas une question qui peut être traitée, effectivement, par des partenaires sociaux qui n'y comprennent rien, ne veulent rien en savoir, ou sont eux-mêmes parmi les plus gros employeurs, en fait, de travailleurs précaires, souvent, par le biais des comités d'entreprise et de choses comme ça. Pour donner des exemples de ces contradictions du monde syndical, c'est peut-être pas... Mais, par exemple, le comité d'entreprise d'EDF, qui est donc tenu par la CGT, est le plus gros employeur de cette France. Donc, on voit qu'on est dans des contradictions du salariat qui sont très, très... très développés, très, très, très diffusés, qui sont dans toute la société aussi. Et par rapport à ça, il y a certainement besoin d'inventer de nouvelles choses, parce que visiblement, il y a quand même eu sur ce front, il y a une certaine sclérose de la dynamique syndicale, c'est le moins qu'on puisse dire, ou de l'intérêt syndical pour ces questions depuis 25 ou 30 ans.
Donc sur moi je repartirai sur le thème de ce que de le terme de sécurité sociale professionnelle qui a été donné tout à l'heure. Bon d'emblée, ouais, c'est vrai qu'on peut se retrouver sur des contradictions. Les textes, ils sont ce qu'ils sont, et la CGT applique les textes tels qu'ils existent. On n'en est pas forcément content pour autant. Après, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait pour se sortir des contradictions. Être dans les contradictions, c'est pas forcément ça qui est important. Après, c'est comment on s'en sort. Et la proposition donc pour s'en sortir, c'est le statut du travail salarié. Alors, qu'est-ce que la CGT entend par le statut du travail salarié? C'est avant tout des droits qui tournent, alors pour certains, autour de l'emploi lui-même. ils tournent tous autour de l'emploi. C'est par exemple le droit à l'emploi à partir du moment où on a eu son premier emploi. Droit au maintien dans l'emploi, droit au salaire, salaire sur la base du temps plein à durée indéterminée pour le privé ou sous statut, enfin, mais temps plein à durée indéterminée, c'est le socle sur lequel on construit ce travail salarié. Ce statut, ce temps plein, cet emploi, de cet emploi déroule un certain nombre de droits. Un des principaux qu'on a vu sortir récemment, c'est le droit à la formation. Ce droit à la formation tel qu'on peut le concevoir, alors il est bien évident que tout ce que je peux dire ce soir, c'est quelque chose qui est mis en débat, c'est pas quelque chose qui est inscrit dans le marbre, c'est quelque chose que la CGT a travaillé et qu'elle soumet au débat salarié. La formation, une formation tout au long de la vie, 10% du temps de travail consacré à la formation, transférable selon les employeurs. Voilà, en tout cas, deux points sur l'emploi. Alors, cela est bien évidemment accompagné d'un certain nombre d'autres droits. On pense au droit d'expression, par exemple, le droit d'expression dans l'entreprise, qui est illustré par un autre droit, alors qui est appris chez les cadres de la CGT, à l'UGICT particulièrement, et qui est le droit de refus. Alors, ce droit de refus, l'UGICT le conçoit sur un cadre a le droit de refuser tout ordre contraire à sa déontologie ou sa... alors, je ne sais plus quels sont les termes exacts qu'on a utilisés. Un exemple, ça a été à Marseille sur la privatisation de la Poste, où des cadres ont réussi à obtenir de ne pas simplement participer à la privatisation de leurs services. Je suis désolé, je suis à l'aise devant un micro, c'est pas quelque chose que je pratique régulièrement. Donc bon, je m'aide un petit peu d'un papier et puis de ce que j'ai pu gratter avant. Voilà, bon, j'arrête là. Je suis désolé. Je pourrais décliner, bon... Un autre aspect, c'est le droit à l'intégrité physique. Un des gros problèmes qu'on a dans les entreprises, en ce moment, on a d'énormes soucis sur la souffrance morale et les harcèlements. Et il nous semble que doit faire partie intégrante du droit du salarié un droit à sa santé et au respect de son intégrité physique. Cela doit être assuré à la fois, par exemple, par la médecine du travail, où on voit bien les qu'il y a en ce moment, mais également... par tous les dispositifs PMI et les dispositifs d'État, de sécurité sociale qui peuvent exister. Et cela en relation également avec le travail. Voilà, j'espère avoir brossé un petit peu l'esprit dans lequel la CGT travaillait par rapport à ce statut du salarié. Bon, j'espère pouvoir le compléter peut-être plus directement en répondant à des questions. Merci.
D'accord.
On va peut-être passer aux questions maintenant. À moins que.
Oui. À moins que tu aies des commentaires.
Ah non. Allez. Non, mais la parole est à la salle. Voilà, là-bas, il y a une question.
Oui, bonsoir. Moi, j'aurais voulu que vous, les interlocuteurs, ce soir, vous pouviez nous parler un petit peu de ce que vous en savez. Bon, moi, j'ai entendu écho par l'intermédiaire de M. Borloo. Donc, si vous pouvez me donner un petit peu d'infos à ce niveau-là.
Le plan quoi ?
Le contrat d'avenir. Le contrat d'avenir, en tout cas.
Le contrat d'activité, le plan de cohésion sociale à Borloo, c'est ça ? Oui, je ne sais pas qui veut répondre là-dessus. Bon, Laurent.
Mais il y a
sûrement des gens dans la salle qui en savent davantage et plus précisément que moi sur ce volet, si j'ai bien compris, de la quadruple guillemets loi de cohésion sociale de notre ministre de l'Emploi et des Affaires sociales. Le volet emploi, je sais pas, sur le contrat d'avenir, non, il n'y a pas de gens. Bon, en gros, c'est ce qui devrait remplacer pas mal de formules du traitement social du chômage actuel, du type CES, CEC, etc. C'est un machin qui existe aussi parce qu'ils n'arrivent pas trop à lancer leur RMA à grande vitesse. Il s'agirait d'un contrat payé évidemment au SMIC horaire, dont les charges patronales seraient prises en charge par les DDTE, etc., comme d'habitude, pour je ne sais plus quelle somme, mais certainement aux alentours de 80-90% du montant. Les salariés qui passeraient par là auraient donc entre 26 et 35 heures à effectuer, payées 26. Puisque les 9 heures en plus sont qualifiées de formation. Alors on ne sait pas exactement, comme on a déjà vu des stages de formation du genre taille de vigne et autres trucs très formateurs qui permettent quand même d'économiser des heures et du travail saisonnier, on verra ce que ça donne. Voilà. Borloo qui vient montrer que le gouvernement n'est pas aussi dégueulasse et libéral qu'on le dit, mais fait quand même du traitement social, réinjecte un peu de fric parmi les chômeurs par le biais des boulots trucs. Il y a quand même un volet social et je sais pas quoi, gaullisme social, chrétien, machin, keynésien presque, voilà. C'est la main gauche, il y a un peu de mou dans la rigidité budgétaire et tout ça, puisqu'on va refaire des emplois et voilà, ce gouvernement marche comme il faut, quoi.
On a eu au moment du conflit du printemps sur le projet de loi de prévention de la délinquance des contacts avec le Conseil général sur comment allait-il appliquer le RMA. À l'époque, le nouveau Conseil général venait d'être élu et la réponse a été on va voir. Et à l'époque, le Parti socialiste disait nous n'appliquerons pas le RMA. On attend toujours, on voit rien venir du Conseil général. Pour autant, les conventions sont prêtes, les organisations sont prêtes, puisque le Conseil général se reterritorialise. Il suffit d'attendre, à notre avis, la nouvelle, mais ils vont bien finir par se dévoiler. Alors après, comment ils feront, ça, on n'en sait rien, mais... Le contrat d'activité, il ne va pas changer grand-chose. Le contrat d'activité, ça va jouer sur quoi? Ça va jouer sur les cotisations qui seront prises en charge ou pas, sur la formation. Et on voit ce que ça a donné sur les contrats emploi solidarité ou sur les RMI, hein, les formations, avec le nombre de sorties de dispositifs assez peu important, en fait. Donc, sur le contrat d'activité, les textes sont là. Après, maintenant, ça dépendra vraiment de la manière dont ça sera appliqué localement. Et ça, c'est un enjeu politique local, ça.
D'autres questions là-bas?
Oui, c'est seulement une information. Nous avons assez rencontré le Conseil général pendant les vacances. Et on leur a posé la question à Alain Robert sur le RMA. Et il nous a dit la chose suivante, il nous a dit, nous appliquerons le RMA que s'il y a des gens qui le demandent. Voilà.
Il n'y a plus qu'à faire des manifs.
On a dit le RMA.
Oui, je voudrais interpeller nos interlocuteurs là, par rapport à ce qui a été exposé, pour revenir sur l'indemnisation. Alors, le rapport, quand il sera là, on essaiera de donner des réponses dans au niveau de la rue, mais pour l'instant, c'est un peu les partis politiques qui décident. Il y a eu des élections régionales, beaucoup de régions sont passées à gauche. Vous avez dit que dans la Fondation Copernic, hein, pas mal de personnalités interviennent et travaillent pour faire des propositions, notamment des personnes de partis politiques. Donc aujourd'hui, par rapport à des propositions qui sont maintenant posées sur papier, Claire, tu faisais référence à ce livre hein, qui est paru, comment les choses avancent, hein, comment la concrétisation de ces propositions avance, notamment par rapport à une gauche qui n'est plus une réponse aujourd'hui, et comment des programmes de gauche vont pouvoir, je dirais, prendre ça en compte dans des futures réformes du système d'organisation. C'est ma question.
La réponse d'élu.
Oui, la question est très claire. La réponse... non, je cherche que tout le monde pourrait bien, parce que non, le problème c'est que on est dans une situation qui est un peu je trouve particulière en ce moment, c'est que on a effectivement un gouvernement. Alors je vais revenir après sur les projets, hein, bon, parce que on a un gouvernement de droite qui a, à mon avis, plusieurs fers au feu. Il y a la version Sarkozy et la version Borloo, mais probablement ça peut se compléter assez bien. Hein, c'est la main droite, la main gauche, comme disait Bourdieu. Et puis on a 20 régions ou 21, je ne sais plus combien, qui sont réputées être à gauche, bon. Et qui en même temps sont à gauche, comment dire, sont prétendument contre la décentralisation, en tout cas c'est ce qu'elles ont dit dans leur campagne électorale, en tout cas la décentralisation version Raffarin, et donc n'ont pas envie de prendre des responsabilités qui sont aujourd'hui celles de l'État, y compris pour faire des démonstrations différentes. Donc on est dans une situation politique qui est un peu compliquée. Enfin, je dis là, je change de casquette, je suis aussi élue au Conseil régional de l'Île-de-France, et c'est vrai que, bon, par exemple, quand on discute sur... il y avait une proposition du PS qui était sur les emplois tremplins, je ne sais pas si dans votre région ils vont mettre ça en place, l'affaire est assez compliquée, parce qu'y compris Borloo, qui est assez fin, a compris... et a envie de conventionner avec un certain nombre de régions pour créer ces emplois qui sont des emplois, à mon avis, pas vraiment, enfin, c'est des emplois jeunes en dessous, quoi. Donc, c'est pas vraiment... Alors maintenant, comment les propositions qu'on fait peuvent progresser dans les partis politiques tels qu'ils... enfin, de la gauche, bon. Moi, je vais vous donner mon avis personnel. Je pense que ces propositions ne peuvent pas progresser, c'était ma conclusion sur la question du partage de la richesse, ne peuvent pas progresser chez des gens qui n'ont pas décidé de rompre avec le du tout marchand et du postulat de la répartition de la valeur, la production de la valeur. C'est-à-dire que, pour être clair, le Parti socialiste, s'il continue dans ses programmes à avoir les mêmes dogmes, ne peut absolument pas prendre ça en compte. Bon, ils peuvent prendre en compte un certain nombre de choses. Ils auraient pu, quand il y a eu le mouvement des chômeurs en 1997-1998, l'exigence qu'on a portée, bon, Laurent le rappelait, qui était de, à l'époque de 1500 francs d'augmentation des minima sociaux, bon, leur réponse en contre, c'était pas une question budgétaire, parce que ça coûtait pas énormément d'argent, je crois qu'à l'époque on avait quantifié à 2 milliards, je crois. Bon, ce qui n'était pas énorme, la réponse de Jospin, c'était très clair, c'était « je ne veux pas mettre ça en concurrence, non pas avec le SMIC d'ailleurs à l'époque, mais avec le demi-SMIC ». Qui décrivait le type d'emploi, hein, c'est-à-dire un truc qui était assez proche de ce que fait Blair en Grande-Bretagne. Donc là, on a un vrai problème parce que, à la fois sur les questions budgétaires et sur les questions de type de développement, ils sont finalement pas tellement différents de Bérou ou même, voire pire. Alors maintenant, les autres, la gauche de la gauche, on pourrait dire. Je crois qu'il y a un accord assez. Bon, alors les Verts, je sais plus très bien où ils sont les Verts. C'est en plus. Bon, c'est un parti quand même assez diversifié, je crois qu'il y a peut-être des gens qui pourraient nous éclairer sur ce débat. En tout cas, dans la Fondation Copernic, il y a des camarades, effectivement, il y a des camarades des Verts, il y a des camarades de la LCR, il y a même quelques socialistes d'ailleurs, les anti-constitution en général. Hein, constitution, pas, parce que tu m'as fait peur tout à l'heure quand tu as dit je m'appuyais sur la constitution, mais je venais de conclure sur la constitution européenne, j'ai eu très peur. Mais non, c'était la constitution de 1793. Parce qu'il faut plus se méfier quand on rentre en ce moment. Mais donc ces idées, je pense qu'elles progressent, mais les débats que je m'en tout à l'heure sur la question du SMIC, sur la question de la démission, même chez les militants anticapitalistes, altermondialistes, etc., c'est pas évident. C'est-à-dire que cette idée qu'il faut garantir un droit au revenu avec des possibilités de choisir ses parcours professionnels, de formation, d'emploi, etc., c'est pas évident. Sans parler du débat qu'on a quelquefois entre nous sur est-ce que la discontinuité est est une donnée ou est-ce qu'elle doit être combattue. hein, qui est, moi je pense plutôt qu'elle doit être combattue, que ce n'est pas une donnée incontournable, même si c'est aujourd'hui la stratégie du patronat, sauf pour certaines professions. Mais de façon générale, quand dans l'automobile, Peugeot ou Renault utilisent des intérieurs toute l'année, c'est, pas une, enfin, c'est une donnée de leur stratégie, mais ce n'est pas une donnée liée, à mon avis, au mode de production. Ça pourrait être organisé autrement. On n'a pas le rapport de force pour le faire, mais ça vaut. Et donc, je pense que les propositions qu'on a faites, elles sont à peu près appropriées, mais on retombe sur la question du rapport de force, c'est-à-dire il faudrait une vraie force politique à la gauche de la gauche, enfin je pense, à la gauche du Parti Socialiste en tout cas, pour arriver à imposer ce genre de choses, ou un mouvement, ou est un mouvement social important, parce que c'est quand même des propositions qui prennent de front les dogmes sociolibéraux, c'est clair. Pas sûr d'avoir répondu vraiment à ta question.
Moi, je veux bien proposer un autre bout de réponse là-dessus. Je pense que l'intérêt de la décentralisation qui a lieu quand même du point de vue des mouvements sociaux, bien avant les décentralisations institutionnelles des années 80 ou celles de maintenant, je veux dire, les coordinations nationales chez les étudiants, ça a commencé à exister dès les années 70, où un certain nombre de villes en lutte remettaient en cause le fait que les choses soient décidées par des appareils parisiens, de partis ou de syndicats, etc. C'est un truc qu'on a retrouvé cycliquement. Maintenant, on sait, au moins depuis 1995, c'est archi-vérifié, qu'en général, les grosses mobilisations ne seront pas nécessairement pour centre en termes de nombre et d'impact, enfin, bon, des endroits comme Paris. Ce qui est sûr, c'est que, en prenant simplement l'exemple de l'attribution de la gestion du RMI maintenant au département plutôt qu'au préfet, comme c'est le cas aujourd'hui, la question va se poser dans tout un tas de départements comme celui de Paris, celui-ci, etc., et un certain nombre de départements qui sont effectivement de gauche, par exemple tout simplement de comment un tel département peut maintenir l'interdiction du RMI au moins de 25 ans, et pourquoi ce département, si l'État central ne le fait pas, ne serait pas amené à créer pour les moins de 25 ans de son territoire, ressortant de son territoire, etc., une forme de revenu qui vienne pallier l'absence de RMI, pour prendre les choses concrètement. Il en est même sur la question des transports. Il y a de très prestigieuses et très riches régions françaises, comme Île-de-France, qui sont en retard et qui bien qu'étant gérées à gauche depuis longtemps, sont en retard, y compris sur des régions qui étaient dites à droite et qui avaient instauré des formes de gratuité ou de tarification sociale sur les transports. L'intérêt de cette décentralisation, c'est qu'aussi l'État va être plus près et que ce Jospin perché sur son tas de fumier de jacobin de l'État central refusant 1500 francs aux chômeurs, il va être maintenant, on va avoir des présidents de conseils généraux partout, beaucoup plus facile à interpeller localement et plus facile à identifier et à faire plier, etc., que des premiers ministres et des choses comme ça. On verra bien ce que ça va devenir, mais il y a un certain nombre d'endroits, etc., où on peut faire quand même des pronostics sur ce que vont devenir les luttes sur les droits sociaux en termes locaux, quoi.
Je voudrais juste répondre sur le rapport de force. Les retraites, il y a eu 3 millions de personnes dans les rues, on n'a pas gagné. Qu'est-ce qui a manqué? L'analyse qu'on fait à la CGT, c'est qu'il nous a manqué 18 millions de salariés dans les rues. Il nous a manqué des salariés qui aujourd'hui ne sont pas syndiqués. Tous les salariés qui pouvaient peser sur l'outil de travail. C'est ceux-là qui ont manqué. Donc, je ne sais pas lequel est le plus dur, faire 15 millions de syndiqués ou créer une force à la gauche de la gauche. Mais la CGT, en ce qui la concerne sur son champ syndical, elle, nous, on considère que là où il faut aller, c'est vers la syndicalisation des salariés. En tout cas, c'est en ce sens qu'on pousse. Et on y va. Mais... En termes de rapport de force, nous, c'est ce qu'on construit.
Moi, je suis assise pour fromage et dessert.
Mais Augustin Grosdois, des Verts de Loire-Atlantique. Alors, Claire a interpellé les Verts. Je ne vais pas répondre au nom des Verts, je vais répondre à mon nom personnel. Et encore, je ne vais pas répondre sur les questions techniques que vous avez... sur les questions que vous avez abordées, je ne suis pas vraiment un spécialiste de ce genre de questions. Mais je voudrais souligner une question de méthode. D'abord, je voudrais dire que, comme Claire, je suis tout à fait d'accord sur la nécessité de construire une force politique à gauche de la gauche. tout à fait d'accord aussi pour qualifier, comme elle l'a fait, le Parti Socialiste et les impasses dans lesquelles la gauche plurielle nous a entraînés en 2000 et 2002. Et je voudrais aussi souligner la nécessité de créer une force qui nous permette de rééquilibrer la répartition capital-travail qui est au détriment du travail, comme elle l'a rappelé, depuis 10 ans, bien au-delà de 10%. Mais c'est la question de la méthode que je voudrais soulever. Je crois que, de ce point de vue-là, le débat qui a lieu ce soir me paraît extrêmement important parce que, si on veut faire face aux nécessités politiques globales, ce n'est pas les partis tout seuls qui construiront les alternatives et encore moins qui les feront aboutir. C'est bien l'ensemble du mouvement social, des mouvements sociaux, si on veut, qui les construiront, c'est-à-dire toutes les organisations qui sont parties prenantes de ces objectifs. Et je crois qu'il y a nécessité à ce que tout le monde, partis politiques, qui sont décidés comme organisations syndicales, organisations, associations de chômeurs, etc., pour créer les conditions politiques qui nous permettent de formaliser au niveau de l'exercice du pouvoir d'État les rapports de force qu'on devra être capable de créer ailleurs, et notamment, comme vient de souligner le camarade de la CGT, arrivant à ce que les travailleurs se resyndicalisent fortement.
Bonjour, Olivier, la coordination des intermittents et précaires de l'Euratlantique, membre de la coordination nationale, dont fait partie également la CIPIDF, représentée par Laurent. Ma question était plus dans le sens concret de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à dans toutes ces attaques. Alors, au-delà du fait que je souris un peu quand j'entends parler de la CGT de 3 millions de personnes dans la rue pour les retraites, parce que peut-être que je me trompe, moi, tête défectueuse, mais il me semble me souvenir qu'on n'a jamais mis 3 millions de personnes dans la rue, mais plutôt 1,5 million à peu près de ce qui avait été évalué, je crois, au plus fort au moment des retraites. Et il me semble me souvenir qu'un communiqué de la CGT avait annoncé 750 000 personnes. Donc, en ça, je me dis, à cette vitesse-là, c'est plus de 18 millions qu'il faut en mettre dans la rue. C'est quand même vachement plus, sur ce principe-là. Mais peut-être que vous me démentirez. Donc, au-delà de ça, c'est de savoir effectivement comment est-ce qu'on établit ce rapport de force pour faire en sorte, face à un gouvernement qui a l'air d'être un petit peu le dur de la feuille, voire autiste à un certain niveau. On voit bien qu'aujourd'hui, les mobilisations, ça fait un moment qu'elles réunissent plus énormément de monde. On comprend que ce système qui maintient bien les gens et en met de plus en plus dans la précarité ne favorise pas le fait qu'à un moment donné, on puisse se mobiliser, sortir de chez soi, et puis qu'on baisse les bras avec une forme de fatalité. Moi, je sais qu'effectivement, la proposition de nouveaux modèles d'indemnisation chômage qui a été faite par la coordination des intermittents et précaires me semble un outil des plus conséquents et que j'aimerais bien voir repris au-delà de ce mouvement-là, étudier un petit peu et porter un petit peu plus. J'aurais bien aimé que éventuellement peut-être Laurent nous en dise un petit peu plus sur ce qui pourrait nous amener aujourd'hui à l'heure actuelle à arriver à dénoncer un petit peu, notamment ces arguments massifs qui à chaque fois sont des déficits assez conséquents pour amener des réformes. Donc on a parlé de 828 millions pour ce qui était du déficit sur les annexes 8 et 10. À l'heure actuelle, je crois savoir que demande a été faite de l'Unédic d'avoir les chiffres, on les a toujours pas. Comment faire pour contrer ces arguments massifs de déficit à l'heure actuelle, où est-ce qu'on en est?
Non, mais l'histoire du déficit, il faut reposer le problème. Voilà, l'UNEDIC a un déficit cyclique, invoqué cycliquement pour faire des réformes, etc. Il n'y a plus d'argent, il faut sauver l'institution. Lorsque la campagne gouvernementale sur la réforme des annexes s'est faite, le chiffre a été cité, 828 millions de sites annuels dus aux intermittents du spectacle. Alors ce chiffre ne prenait pas en compte du tout les cotisations de tous les salariés du secteur, déjà, donc il pouvait être divisé par deux. Et en plus, l'annulation d'Avignon en 2003 a démontré que ce chiffre, évidemment, n'avait aucun sens par rapport aux emplois et aux activités induites dont on ne sait pas discerner la quantité, etc., etc., par le biais des seules cotisations liées au secteur. L'annulation du Festival d'Avignon a, selon les commerçants, coûté quasiment aussi cher que le déficit revendiqué par le MEDEF, à l'UNEDIC, etc. Bon, c'est, de toute façon, il s'agit de fictions comptables qui sont assez peu descriptives de la réalité. Cette histoire de déficit a néanmoins un sens, c'est que on agite à chaque fois contre nous un argument qui est incontestable. Oui, les caisses de protection sont faites pour être déficitaires, l'école c'est déficitaire, l'hôpital c'est déficitaire, sauf si ça sert qu'à engraisser les laboratoires pharmaceutiques et je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de manières de compter qui sont un petit peu étranges. Maintenant, c'est vrai que la difficulté, ça revient à un débat qui était posé évoqué par Claire sur la discontinuité. C'est que d'une certaine manière, ce qu'on paye ou pas aux chômeurs, c'est pas le fait d'être membre de la société d'un point de vue productif, c'est le fait d'être membre d'une société productive. Donc, en fait, d'incarner une disponibilité productive. Soit ça, c'est reconnu, le chômeur est reconnu comme un travailleur disponible, etc. Que cette disponibilité soit attestée par une récurrence plus ou moins fréquente dans l'emploi ou pas. Donc il n'y a pas que des arguments humanistes, même des arguments un petit peu un minimum conceptuel sur la manière dont fonctionne l'économie. On nous demande d'être sans arrêt disponible. Je veux dire, le chômeur fournit une information déjà sur ce que sont les emplois existants. Par exemple, certes, la démission vaut a priori 4 mois sans allocation. Il n'empêche que le motif démission actuellement augmente dans les motifs d'inscription à la NPE. De manière tout à fait contradictoire avec ce qu'on pourrait attendre, c'est-à-dire, ça veut dire se priver de revenus, etc. Bon, maintenant, les perspectives aujourd'hui, il y a évidemment ces histoires d'expertise collective. Pour l'instant, le gouvernement a nommé, par le truchement du ministère de la Culture, des experts sectoriels sur divers trucs, la production culturelle. Éventuellement la question de restreindre le champ d'application de l'accord concernant les gens du spectacle. Alors, leur ambition, c'est toujours de diviser entre artistes et techniciens. On reconnaîtrait je ne sais qui, je ne sais comment, comme... et les autres, les techniciens, seraient plus ou moins voués à devenir des intérimaires, donc avec beaucoup moins de garanties, etc., etc. Bon, il y a un travail de fond qui est fait là-dessus, et une des hypothèses les plus fortes, c'est d'arriver à montrer à quoi sert effectivement l'UNEDIC, mais pas en termes de dénonciation. Quel est le rôle productif de l'UNEDIC simplement par le fait d'entretenir, même très mal, une fraction de la main-d'œuvre? Qu'est-ce que ça veut dire d'entretenir cette disponibilité de la main-d'œuvre, même selon des critères de test, etc., etc.? Quel rôle productif ça peut bien avoir? Parce que il faut arriver à comprendre à un moment donné que derrière le déficit, il y a l'investissement nécessaire d'une société. Après, on peut tout à fait contester à quoi, comment c'est fait, etc., etc. Mais il faut déjà commencer par renverser le problème dans les têtes. Hein. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu tellement à la question des perspectives. À part ça, c'est vrai que les mobilisations sont... dans un régime de base eau complète, et que une des seules choses sur lesquelles on puisse peut-être tabler au niveau local, c'est cette espèce de disproportion entre un pouvoir central, donc de droite, libéral, machin, supérieur, duré 3 ans, et une gauche absolument dépourvue de programme. Je veux dire, le Parti Socialiste, la dernière fois, nationalement, je crois que la nouvelle, c'était « on se reverra dans un an et demi, on annoncera un programme, etc. » Je pense que le programme, il faut l'inscrire à coup de pied au cul sur leurs élus locaux, sur la question des transports, de la levée de l'interdiction du RMI au moins de 25 ans, d'un contre-actif sur les mesures pour revenir au projet Borloo. Le projet Borloo est surtout important pour l'ambiance, encore une fois, de culpabilisation des chômeurs. Les mesures de renforcement du contrôle des chômeurs, etc., qui font que plein de gens sont chômeurs découragés avant même d'avoir été radiés. On n'a pas de droit, on va avoir des emmerdements d'aller mettre un doigt dans cette machine, etc., que les gens ne vont plus à leur convoque, se font sortir, y compris pour ne pas être obligés d'occuper un emploi de 35 heures payé 26, comme ça sera le cas dans ce machin. Par rapport à ça, il y a des formes d'autodéfense sociale, d'organisation collective localement sur ces trucs-là, vis-à-vis desquels il sera nécessaire d'interpeller les élus, spécialement les élus de gauche, pour qu'effectivement... ils soient contraints de se déterminer un minimum sur des choses plus concrètes que leurs problèmes d'écurie, de strapontin et de marketing.
Bonjour, Liliane Aix du mouvement de chômeurs ici sur Nantes. Je voudrais malgré tout faire une remarque. Je ne crois pas que le syndicalisme soit la seule réponse. Je crois que nous sommes ici nombreux à ne pas être syndiqués et pourtant nous voir régulièrement dans la rue. Tout ce que je veux dire.
Oui, je vais me présenter aussi. Je suis Philippe Gauthier du syndicat des musiciens CGT. Enfin bon, disons CGT spectacle, je dis syndicat des musiciens. Bêtement, parce que je suis musicien. C'est un peu compliqué parce que c'est difficile entre, d'une part, répéter des choses qui ont l'air des évidences pour nous tous, et puis. Projeter pour essayer d'avoir un horizon. Donc, quand même, je vais commencer par répéter des choses qui pourtant ont l'air d'être évidentes pour tout le monde. Premièrement, le chômage de masse est un choix de notre société. On n'a pas tant de décennies de chômage de masse comme on le vit. C'est pas un choix de la société. Et donc, c'est notamment une des premières bases à poser, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est imposé à toute une partie de travailleurs, même si ça peut paraître paradoxal de les appeler comme ça, mais moi je continue à le faire. Et que donc, si la société fait ce choix-là, c'est à la société de déterminer comment elle fait pour que cette partie de la population puisse subvenir à ses besoins. Et je trouve que cette référence aux besoins des gens est fondamentale. Deuxième évidence, je suis désolé, les attaques qui sont subies année après année sur l'indemnisation des chômeurs sont peut-être des expérimentations des têtes de pont, mais ça fait partie des attaques globales contre tout ce qui est système collectif de protection sociale, contre tout ce qui est droit collectif. Et en cela, s'il y a une particularité à cette question-là, il y a aussi quand même. Il faut les rattacher au cas général. C'est-à-dire de la sécu, de l'assurance maladie, notamment. Et puis, je vais venir sur un point où, sur les différentes interventions, il y a un petit peu de divergence. C'est sur ce qu'on appelle, suivant le cas, la précarité ou la discontinuité. En tant que salarié du spectacle, la précarité, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le système d'assurance chômage s'est mis en place, tous les salariés du spectacle n'étaient pas des précaires. Et loin de là. Et que, par exemple, si on veut comparer avec la situation de pays étrangers, par exemple, pour être technicien dans une salle de spectacle, C'est un métier qui demande une qualification tout de même assez poussée. Et donc, ce qui fait qu'en France, dans les salles où on diffuse des spectacles, on prend des précaires, qu'on prend, qu'on jette, n'est pas obligatoirement le cas à l'étranger. C'est-à-dire que, à conditions socio-économiques comparables, les gens ne sont pas des précaires. Donc, pour prendre le cas particulier des intermittents du spectacle, le fait que nous soyons des précaires n'est pas que une fatalité qui est due aux caractéristiques de nos secteurs d'activité. Et donc, arguments qui ont été développés sur le fait que la précarité est inacceptable parce qu'en tant que salarié, c'est invivable. Donc c'est aucun droit syndical, aucune possibilité de se réveiller à aucun moment que ce soit, si ce n'est à espérer se faire virer de la formation dans laquelle on joue ou virer des plannings sur lesquels on est inscrit. Et ça, c'est évidemment pas acceptable. Et quand bien même un système d'assurance chômage serait efficace, il n'empêche qu'il resterait ça. Et donc, je pense qu'il n'est pas possible de se dire que parce que, bon, on l'a dit, c'est vrai que le contexte des luttes, le contexte social, depuis un certain nombre de mois, est parti difficile. C'est difficile d'être ambitieux, malgré tout, quand on voit les forces auxquelles on se heurte. Mais s'il s'agit d'être ambitieux dans ces projets, alors il ne faut pas prendre la précarité comme quelque chose qui est un fait et comme quelque chose qu'on accepte. Et je pense qu'il n'est pas possible d'envisager la revendication sur l'indemnisation du chômage en disant que la précarité est quelque chose que finalement on prendrait pour un acquis qu'on laisserait au contraire.
Oui, je voudrais poser une question un peu pour prolonger ça en fait sur le débat, c'était repenser en fait l'indemnisation plutôt que penser comment s'organiser en termes de lutte. Donc on a parlé beaucoup de notions de répartition des richesses et donc à savoir justement ce qu'on avait droit dans le cadre du chômage, c'était plus finalement le droit aux nécessités de la vie, donc finalement c'était calculé selon notre besoin et non forcément en fonction de ce qu'on avait pu travailler, donc en fonction de notre besoin, ou même éventuellement parce que tout simplement on était potentiellement disponible pour travailler, donc en ce sens-là qu'on travaille, qu'on soit disponible pour travailler, on avait droit à une certaine rémunération, et mon camarade de la CGT ont été plus partis sur la notion d'avoir un droit salarié assez fort. Moi, en termes de revenir finalement à cette notion de société qu'on veut construire, et donc sans pour autant accepter cette précarité, donc en allant peut-être d'une manière différente, donc il y a la notion de répartition des richesses, mais est-ce qu'on a également la notion de répartition du travail? Donc sans prôner bien sûr la fin du travail, qui sans doute solutionnerait le problème du chômage. Mais ce que je dis aussi également, c'est qu'on a une évolution de société qui nous amène à travailler sans doute moins ou à se répartir du fait d'une certaine acceptation de l'industrialisation, de certaines choses qui datent peut-être de siècles. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut pas non plus essayer de repenser le chômage